Bras Zéro, Brassage Radio. Alors aujourd'hui, on va parler justement de brasier parce que le vieux monde a chaud aux fesses. Et notamment, on va revenir sur Hong Kong, cette ville-état qui bout depuis 22 week-ends de mobilisation. Alors au-delà des images spectaculaires, d'émeutes et de manifestations énormes, on a vu quand même plus d'un million de personnes dans les rues. Alors imaginez, c'est quasiment un huitième de la population de Hong Kong. Et c'est plus que toute l'aire urbaine toulousaine. C'est comme si tous les Toulousains et Toulousaines allaient dans la rue ensemble. On a vu aussi des entreprises appelées à la grève, des médias prêts à fustiger nos casseurs en gilets jaunes, admirer les militantes et les militants pro-démocratie, qui font pourtant en fait plus ou moins la même chose. Autant dire qu'on s'est un peu perdu. Alors pour tenter un peu de comprendre tout ça, eh ben, on a des personnes qui sont de retour d'un voyage à Hong Kong, et du coup on va pouvoir rediscuter de ça avec Cassandre, Yvan et Julien.
Bonsoir.
Bonsoir.
Salut.
Bonsoir. Alors, vous avez passé 10 jours, c'était au mois de septembre, c'est ça?
Ouais, on est parti 12 jours fin septembre. Et voilà, c'était un séjour assez court, quoi.
Ouais. Et bah, du coup, voilà, comment est-ce que vous expliquez un peu ce point de départ du mouvement? Qu'est-ce que vous avez vu là-bas et comment est-ce que vous arrivez à expliquer ça?
Alors du coup, le mouvement débute parce qu'il y a un couple de Hongkongais qui part en vacances à Taïwan et que le mec tue sa copine dans l'appartement qu'il loue pour les vacances. Et ensuite, il lui vole ses affaires et il rentre à Hong Kong. Et en fait, arrivé à Hong Kong, il va voir la police et il se rend, quoi. Enfin, je sais plus s'il va voir. Si, enfin, en tout cas, il déclare qu'il a tué sa copine, quoi. Et sauf que il n'y a pas de loi qui peut lui permettre d'être renvoyé à Taïwan. Et donc, c'est l'occasion pour le gouvernement de proposer une loi qui permettrait d'extrader les gens depuis Hong Kong à Taïwan, mais surtout en Chine. Et donc, le gouvernement fait cette proposition de loi, quoi. Sauf que, du coup, ce qui fait peur aux Hongkongais, là, c'est pas de pouvoir être réextradé à Taïwan. Du coup, pour cette personne-là, pour être jugée pour meurtre, c'est que ça permettrait à la Chine de venir chercher des gens à Hong Kong et de venir les juger en Chine. Et en fait, c'est délicat puisque à Hong Kong, il y a vraiment beaucoup de gens qui fuient la Chine, justement. Alors, ça va d'opposants politiques, d'associations, d'opposants politiques à des chefs d'entreprise qui veulent pas nationaliser leurs entreprises, enfin, qui veulent pas donner leur capital à la Chine, tout ça. Là, là. Du coup, il y a vraiment une diaspora chinoise qui est à Hong Kong et qui a vraiment aucun intérêt à ce que cette loi-là passe, quoi. Et du coup, c'est ça qui fait sortir les gens dans la rue à la base, quoi. Et c'est un des points, ça va être un des points de cristallisation, quoi, et une des demandes au gouvernement de ne pas faire passer cette loi d'extradition.
Ouais. Et c'est juste, parce que vous y êtes allé, du coup, cette diaspora chinoise, en fait, parce que les Hongkongais, nous, on a l'impression, en tout cas, quand on est là, qu'ils sont chinois, en fait. Du coup, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'on sait qui c'est? Parce qu'en plus, on en reparlera tout à l'heure. Hein, mais dans le vécu, justement, qu'est-ce que ça veut dire une diaspora chinoise à Hong Kong?
Ouais, en fait, ça veut pas dire grand-chose parce que en fait, les Hongkongais, ils sont chinois, quoi. C'est juste que historiquement, c'est vraiment il y a beaucoup de gens qui fuient la Chine, donc ils appellent Chine continentale, quoi. Et pour venir à Hong Kong, parce que c'est un endroit vraiment spécifique, enfin très spécifique au niveau des lois, du coup au niveau des lois économiques, sociales, judiciaires, ça fait pas du tout partie du même système, quoi. Et d'ailleurs, c'est le slogan, quoi, qu'on a beaucoup entendu dans les journaux, de un pays, deux systèmes. Et donc voilà, en fait, les gens, enfin, ils sont chinois, quoi. Ils ont des papiers chinois.
Parce qu'en fait, Hong Kong, c'est une ancienne colonie britannique qui a été rétrocédé du Royaume-Uni à la Chine en 97. Et du coup, on pourrait dire ethniquement, pour autant que ça ait un sens, il y a une forte homogénéité évidemment entre la Chine continentale et les Hongkongais. Pour autant, ils ont énormément de spécificités culturelles, politiques, sociales, etc., qui sont le produit de l'histoire coloniale. Et donc du siècle ou de, je sais pas, des 150 ans pendant lesquels Hong Kong a été colonie britannique. Je sais pas, ils conduisent à droite, ils ont plus de droits politiques. Il y a toute une façon comme ça de se positionner depuis Hong Kong comme appartenant à l'Occident. Et donc c'est aussi quelque chose qui surdétermine énormément ce mouvement social.
Mmh. Et ben d'ailleurs, ce mouvement social, est-ce qu'on refait une petite chronologie rapide de ces 22 week-ends de mobilisation ?
Ouais, on peut essayer de faire une chronologie en partant par mois. Disons, mm-hmm. Il y a un peu une unité comme ça, facile. Du coup, ça a démarré en juin. Et en juin, le fait notable, c'est les manifestations monstres qu'on a vues beaucoup dans les médias ici. Et c'est le 9 juin, la première très grande manifestation de 1 million de personnes dans les rues, le 9 juin, sachant que le 16, une semaine plus tard, là-bas, ils disent 2 millions de personnes dans la rue, donc c'est du jamais vu, même pour là-bas. Et donc voilà, les gens sortent dans la rue contre le projet d'extradition et... Très vite, ça se focalise autour des violences policières parce que la police réprime, le gouvernement est inflexible, la loi passera, elle sera discutée comme si personne n'était sorti dans la rue. Et donc, le 12 juin, il y a une grande occupation du quartier central où se trouve ce qu'ils appellent le LegCo, le Legislative Council, le bâtiment qui est l'équivalent du Parlement, si on veut. Et il est bloqué toute la journée du 12 et toute l'après-midi, ça part en grosse émeute. Et ce que retiennent les gens, c'est vraiment la violence policière à ce moment-là. Et donc le 16 juin, tout le monde ressort dans la rue pour en grande partie déjà contre les violences policières. Et j'insiste un peu là-dessus parce que c'est un truc qu'on retrouve aussi en France les dernières années où très vite tout se focalise là-dessus.
Juste un truc, c'est quand au début là, il y a aussi de la grève, non, parce que ça s'est vite calé sur des week-ends, mais là les dates que t'as données, c'est toute une semaine là, quasiment quoi. C'est
La première semaine, ouais, c'est pas du tout un rythme de week-end au départ, et même pendant tout l'été, il n'y a pas que les week-ends où ça va bouger. C'est plus des dates symboliques. Il y a déjà le 4 juin, le rassemblement en mémoire du massacre de Tiananmen. Il y a beaucoup de gens qui sortent parce qu'ils sentent que ça va sortir dans la rue plus tard. Le 9 juin, ensuite le 12, il y a la loi qui est rediscutée au Parlement et donc tout le monde sort pour bloquer le Parlement. Trois jours après, la loi elle est suspendue, mais il y a quand même, donc c'est le 15 juin, c'est suspendu déjà la loi, mais le 16 il y a 2 millions de personnes dans la rue. Et ensuite, ça continue presque tous les jours en fait. Et même à ce moment-là, les gens restent très tard dans la nuit et il y a des émeutes sporadiques un peu à plusieurs endroits. Et la date suivante, c'est le 1er juillet qui est très importante symboliquement parce que le 12, les gens avaient essayé d'entrer dans le bâtiment législatif, l'équivalent du Parlement. Le premier, non seulement ils essayent, mais ils y arrivent en cassant toutes les vitres, le blindage, etc. Enfin, c'est assez fou ce qui se passe ce jour-là. Ils arrivent à rentrer, pardon.
Sachant que le 1er juillet, c'est le jour où ils fêtent justement la création de la région autonome spéciale. Du coup, c'est une date aussi... c'est symboliquement super importante, où il y a chaque année des manifestations assez massives qui sont organisées là-bas par le Front civil des droits de l'homme, je crois, qui...
Oui, voilà, et c'est eux, le Front civil des droits de l'homme, civique, je crois, des droits de l'homme, qui organisent les premières... Toutes ces grosses dates de manifestations, c'est eux qui les posent, elles sont autorisées au départ. C'est essentiellement des marches pacifiques et c'est appelé comme tel... Mais vers la fin, en général, il y a un début d'affrontement avec la police. Et donc le 1er juillet, ils entrent dans le bâtiment législatif et ils le saccagent. Il y a des tags qui sont écrits un peu partout, notamment en référence au mouvement d'il y a 5 ans, en 2014, le mouvement des parapluies, pareil pour le suffrage universel. Et ils taguent « c'est vous qui nous avez appris que les manifestations pacifiques ne servent à rien ». Parce que ce qui a caractérisé le mouvement des parapluies, c'est une grande éthique du pacifisme et de l'image publique du mouvement qui disparaît complètement, enfin qui disparaît beaucoup aujourd'hui au profit d'une sorte de solidarité assez forte entre toutes les méthodes de lutte. Et donc... Ça, c'est important symboliquement parce que depuis le 1er juillet jusqu'au 16 octobre, le Parlement ne siège plus. Le 16 octobre, ça a été la rentrée parlementaire. Et il ne siège plus parce qu'il s'est fait saccager ce jour-là. Et donc, ensuite, le mois de juillet et août, c'est quand même assez fou parce que tout l'été, le mouvement a continué. Alors qu'on a dit, par exemple, que c'est un mouvement jeune en grande partie...
Et il se trouve que ça aurait pu, disons, s'évaporer pendant les vacances. Et bah pas du tout, ça a vraiment été très fort pendant les vacances. Et alors là, je vais un peu vite parce que en fait, à ce moment-là, il y a quasiment des choses qui se passent tous les jours. Pas dans les quartiers centraux forcément, dans tous les quartiers de Hong Kong, mais il y a presque des choses tous les jours. Et donc les choses un peu remarquables, disons, on peut citer au moins le 21 juillet. Il y a des membres des triades, qui est une espèce de la mafia hongkongaise, on pourrait dire, qui attaquent des manifestants. Et ça va être, c'est assez déterminant pour l'état d'esprit du mouvement, parce que tout le monde dit qu'ils sont, enfin tous les gens du mouvement disent que les triades sont à la solde de la police et ne sont pas inquiétés par la police, ne sont pas poursuivis quand il y a des attaques, etc. Et on voit beaucoup d'images avec des triades qui parlent avec des policiers, ben, bref. Et donc ça détermine un état d'esprit un peu de psychose aussi autour de ces attaques-là. Et le 5 août, très important, là, il y a une grève générale qui est très très suivie à Hong Kong. Et donc c'est la première fois, il me semble, à Hong Kong qu'une grève générale et que donc les secteurs, disons, voilà, du travail et de l'économie appuient un mouvement qui, au départ, part que sur des motifs politiques, disons, cette loi d'extradition et le régime politique de Hong Kong. Et cette grève générale, elle est très suivie. Et ensuite, il y a une chose qui va faire date aussi, c'est le blocage de l'aéroport. S'il y a plus de 5000 personnes qui vont bloquer l'aéroport, et pareil, c'est important parce qu'à Barcelone, ils ont fait exactement la même chose en reprenant les techniques de propagande hongkongaise par les réseaux, par Telegram, etc., et notamment pour aller bloquer l'aéroport. Et ça marche super bien. Les médias occidentaux, à ce moment-là, ils tournent vraiment leurs projecteurs sur Hong Kong. À ce moment-là, sur Le Monde, par exemple, il y a au moins un ou deux articles par jour pendant plusieurs semaines.
Et juste sur... parce qu'on a vu beaucoup les images sur l'aéroport, mais la grève générale... du coup, il y a des entreprises qui ont appelé à la grève, quoi. Parce que c'est ça qui est hyper étrange quand même à Hong Kong, c'est l'espèce de composition de classe de ce mouvement-là, où c'est les patrons ont appelé à faire des blocus et faire une grève, quoi.
Ouais, il y a plein d'entreprises qui ont assumé ça, oui, de faire grève. Il y en a même qui appelaient pas eux en leur nom les patrons de faire grève, ça n'avait pas de sens. Par contre, ils ont fait, on a eu beaucoup d'exemples de gens qui disaient que leur entreprise, leur patron avait aménagé les horaires pour qu'ils puissent aller à toutes les manifs et qu'il y avait une espèce de laisser faire autour de ça, voire même d'encouragement à y aller.
Dans manif, quoi.
Oui, voilà. Mais ça vaut aussi pour la fac, des profs qui encouragent les étudiants à aller en manif et qui, pareil, sanctionnent pas les absences, etc. Et donc, c'est comme si je ne sais pas comment dire ça, l'opinion majoritaire, la doxa, était pour le mouvement. Et il y a beaucoup d'organes de presse aussi qui le soutiennent. Je veux dire, ce n'est pas un mouvement minoritaire au sens où on a l'habitude de les voir, par exemple, en France. Ou... Et donc, juste pour terminer la chronologie, grève générale, blocage d'aéroport, ça en août, et toute fin août, une attaque dans le métro qui va... faire s'élever d'un cran, on pourrait dire, la conflictualité. C'est le 31 août. Les grilles du métro sont fermées et les flics tabassent des gens dans le métro avec des images super choquantes qui sortent. Et il y a une rumeur qui dit que trois personnes manqueraient à l'appel à la fin de cette journée-là, c'est-à-dire les pompiers auraient pris en charge 10 personnes, aux urgences il n'y en a que 7, et bref, on dit que les flics auraient peut-être tué trois personnes dans le métro là, dans le métro ce soir-là. Et donc ça tourne beaucoup, ça fait grand bruit, et cette station, les gens y retournent les jours d'après, et surtout ça engage une espèce de lutte de tous les Hongkongais contre la compagnie du métro MTR qui gère le métro hongkongais, qui depuis tout le mois de septembre et le mois d'octobre est la cible permanente d'attaques vraiment assez violentes. Tous les week-ends, il y a des stations qui se font vandaliser, etc. Donc voilà, c'est un moment important. Et ensuite, le 4 septembre, la loi est retirée, ou du moins la chef de l'exécutif, Carrie Lam, elle s'appelle, elle décide de retirer la loi. Mais il faut attendre le 16 octobre, enfin la rentrée parlementaire, pour qu'elle soit votée, ce retrait. Donc les manifestants disent, là, on se démobilise surtout pas. Et en septembre s'engage une stratégie un peu étrange, bon, qui est latente dans le mouvement depuis le début, mais qui est une demande de soutien envers l'Occident. C'est-à-dire qu'on voit des manifestations avec, nous ça c'était juste avant qu'on arrive la première, avec plein de drapeaux américains pour demander le soutien des États-Unis et le vote d'une loi aux États-Unis qui reconnaîtrait, disons, une spécificité à Hong Kong et en gros qui punit la Chine en cas d'atteinte aux droits de l'homme à Hong Kong. Et donc il y a une espèce de stratégie, disons, géopolitico-diplomatique en quelque sorte du mouvement qui essaye de faire pression sur les États-Unis, l'Europe, le Japon même, pour essayer de discréditer la Chine et surtout d'avoir le soutien de puissances occidentales. Donc il y a ça. Et ensuite, le dernier élément peut-être important, c'est tout ce qui s'est passé autour du 1er octobre. C'est la fête de commémoration de l'annonce de la République populaire de la création de la République populaire de Chine par Mao en 1949. Et là, c'est les 70 ans. Et donc, il s'annonce une fête énorme pour le 1er octobre parce que Xi Jinping, le président chinois, déjà lui, bon, c'est quelque chose. Il a aboli la règle des deux mandats pour pouvoir avoir un mandat à vie à la tête de la République populaire. Et c'est la première fois que tombe sous son mandat à lui un multiple de 10, c'est-à-dire les 70 ans de la fête nationale. Et tous les 10 ans, il se trouve qu'il y a un défilé énorme. Et donc là, comme il y a ça à Hong Kong, que lui, en plus, il veut montrer que la Chine, c'est plus que c'était il y a 10-20 ans. Aujourd'hui, c'est une puissance expansionniste qui veut concurrencer les États-Unis pour le leadership mondial. Il fait le plus grand défilé, la plus grande parade militaire de toute la République populaire de Chine, de toute l'histoire de la Chine. Et donc c'est une démonstration de force énorme. Et évidemment les Hongkongais avaient dit on laissera pas faire. Et donc il y a des manifestations vraiment assez virulentes à Hong Kong. Et la police reçoit des ordres de faire usage plus facilement des armes à feu. Donc il y a un jeune qui se fait tirer dessus à côté du pas loin du cœur. Et voilà, ça fait une semaine, disons, où le niveau de conflit passe un nouveau cap et il y a des émeutes tous les jours. Ça, c'était un mardi, le 1er octobre, et du mardi au samedi, dimanche, il y a des émeutes tous les jours. Il y a une loi d'urgence qui passe, qui applique une mesure coloniale anti-masque pour éviter que les gens se masquent, sachant que c'est un peu absurde parce que là-bas, il y a des manifestations de 200, 300 000 personnes où tout le monde est masqué, où tout le monde a au moins un petit masque anti-pollution, mais noir. Et donc, potentiellement, la loi s'applique à tout le monde. Donc, il y a cette mesure d'urgence qui est votée et les gens sortent massivement dans la rue avec des masques pour protester. Il y a un deuxième jeune de 14 ans qui se fait tirer dessus. Et voilà, et après tout le mois d'octobre, là, ça continue et chaque semaine, donc là, c'est surtout les week-ends en ce moment. Il y a de nouveau des gens qui sortent dans la rue et à chaque fois il se passe des choses dans plusieurs quartiers de la ville.
Brasero et vénère, pas prêt à se taire. Brasero et vénère, pas prêt à se taire. Brasero et vénère, pas prêt à se taire.
On va passer sur des histoires de structuration du mouvement, mais avant, t'as dit qu'il y a une espèce de lien avec le mouvement des parapluies, et j'ai l'impression qu'il y a un autre truc qui est important, et puis ça rejoint cette histoire de masque, c'est le refus des représentants. Moi j'ai l'impression, alors de loin, hein, cette espèce de truc de dire, en fait, si quelqu'un lève la tête, il va se la faire couper, donc il faut qu'on soit tout le monde, que personne ne sorte du rang un petit peu, et que ça tourne, et qu'on se masque, et les parapluies, c'est pour se protéger de la vidéosurveillance, etc. Et peut-être juste avant de parler un peu de structuration, ce rapport au flicage par rapport à l'expérience de 5 ans avant du mouvement des parapluies, quoi.
Alors, ouais, il y a deux questions. Il y a le fait qu'il n'y a pas de représentants. Du coup, ça, c'est vrai que c'est assez différent par rapport au mouvement des parapluies parce qu'il y avait quand même assez vite des leaders qui avaient émergé, assez jeunes, et qui ont effectivement pris des années de prison après, tout ça, qui ont subi une répression assez forte. Et là, il n'y a pas l'air d'avoir vraiment de parti politique ou de leader qui vient prendre la parole pour le mouvement, quoi. Et du coup, enfin, j'ai l'impression que les médias occidentaux, en tout cas au début, ont quand même vraiment voulu faire parler Joshua Wong, qui est du coup un des leaders du mouvement des parapluies, qui a créé un mouvement politique qui s'appelle Demosito, et dont d'ailleurs deux personnes se sont fait élire au Parlement, enfin bon voilà, qui sont genre, dans une certaine mesure rentrées dans le jeu électoral et tout ça. Mais en fait, nous, quand on était là-bas, vraiment. Les gens nous parlaient pas de ce mec qui s'est par ailleurs fait arrêter plusieurs fois en plus dans la rue. Enfin, mais bon voilà, c'était pas sa parole ne comptait pas forcément plus que d'autres quoi. Et du coup, sinon par rapport au flicage, je sais pas, vous voulez répondre.
On peut-être dire quelques mots de je sais pas, l'espèce de mot d'ordre qui a pour le coup fait un peu le tour du monde les dernières semaines de Bewater, qui vient d'un film où Bruce Lee en gros formule ses préceptes de Kung Fu dans lequel il faut être comme de l'eau, c'est-à-dire être capable de prendre toutes les formes possibles, d'être soi-même informe de sorte que dans chaque situation tu seras capable de t'adapter et je sais pas, d'être sans aspérité, donc on peut pas t'attraper, on peut pas te prendre, on peut pas te saisir. Et donc les manifestants avec qui on a parlé plusieurs fois, ils se référaient à ça comme une espèce de mot d'ordre qui serait un peu la philosophie du mouvement. Mais rien qui sort quoi dans l'eau, l'idée étant d'être capable dans les moments d'offensivité d'être offensif, de pouvoir s'échapper, se recondenser ailleurs, etc. Et donc de ce point de vue là, ouais, il n'y a pas de leader ou quoi, enfin ça fait partie de cette philosophie générale là. J'ai l'impression que il y a pas de représentants qui se dégagent par rapport au mouvement.
Mais sur ce truc d'ailleurs de Bewater, alors du coup c'est vraiment, vous allez me dire parce que c'est un peu les images qu'on voit, mais on a l'impression qu'il se passe plein de trucs à plein d'endroits. On n'a pas cette, alors qu'on a vu un petit peu plus avec le mouvement des gilets jaunes à certains moments, mais en tout cas on n'a pas l'impression que c'est à un seul endroit. Et puis on voit plein de petits groupes avec des petits groupes de flics, des fois il y a deux flics. C'est hyper étrange cette espèce de ça vient de ce truc de est-ce que les gens se répandent après les cortèges, ou est-ce qu'il y a pas de cortège, ou
en fait il y a plein de... Le mouvement prend plein de formes différentes, quoi. Nous, quand on y était, c'était un moment de creux. Et pourtant, il y avait des trucs qui se passaient à peu près tous les jours, quoi. Donc, ça peut être des occupations de centres commerciaux. Bon, occupations plutôt des... Ouais, des occupations, disons, pacifistes, quoi. À la fin d'une journée, les gens se réunissent en masse dans un centre commercial. Des chaînes humaines gigantesques. Nous, quand on y était, on a vu une chaîne humaine, où, je sais pas, de... Ouais, plusieurs milliers de personnes, quoi. Il y en avait d'un côté et de l'autre du rivage, parce que du coup, à Hong Kong, il y a une île sur laquelle il y a surtout le centre économique, quoi. Et après, il y a toute une partie qui est rattachée plutôt au continent. Et du coup, en fait, c'est ça aussi qui explique qu'il y a beaucoup de formes différentes et même beaucoup de points de manifestations différents à des moments. C'est parce que la ville, elle est aussi immense et qu'il y a beaucoup de district, enfin de quartier, quoi. Et parfois, du coup, il y a plusieurs manifestations en même temps dans différents quartiers, quoi. À un moment donné, il y a eu aussi, pendant le mouvement, des encerclements de commissariats. Du coup, les gens descendaient dans la rue et se rassemblaient à côté du commissariat le plus proche qu'il y avait chez eux, puis encerclaient le commissariat. Voilà. Et après, il y a aussi quand même des rendez-vous où il y a des grosses manifs. Et donc là, c'est les cortèges dont on parlait tout à l'heure, à 2 millions de personnes. Je crois que c'était vraiment la plus grosse manif. Mais sinon, c'est quand même des manifs assez grandes qui sont, dans un premier temps, des marches, quoi. Plutôt marches, disons, pacifistes, quoi. Qui vont d'un point A à un point B. Et ensuite... pour les gens qui ont, disons, enfin, le cortège un peu plus énervé, se retrouve à la fin de la manifestation et continue la manifestation, quoi, en gros. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à y avoir des affrontements avec la police. Bon, après ça, nous, c'est une manifestation comme ça qu'on a vécu, mais il y a aussi d'autres formes, quoi. Et aussi, les manifs, elles se passent vraiment pas tout le temps au même endroit, quoi. Il y a des je sais pas, des manifs dans différents quartiers, mais quand même surtout sur cette île, ce qu'on disait là, cette île avec toutes les grandes enseignes de banques, de magasins de luxe, parce qu'en fait Hong Kong c'est vraiment un endroit, c'est une ville du luxe, quoi, de l'industrie du luxe. Du coup c'est quand même aussi enfin par exemple ce centre économique, c'est vrai, c'est hallucinant quoi, c'est ils appellent ça Little Tokyo, enfin c'est que des buildings immenses, que des enseignes de quartier, enfin du coup faire des manifs là-bas, c'est aussi, c'est un peu une ambiance particulière.
Peut-être pour ajouter par rapport à ce que tu disais, le fait que ça donne l'impression que ça part dans tous les sens, de tous les côtés, etc. C'est qu'à Hong Kong, il n'y a vraiment aucune expérience de la contre-insurrection. Et donc, de fait, la police encadre très mal. Enfin, c'est massif, des centaines de milliers de personnes. En plus de ça, il ne faut pas s'imaginer comme en France un défilé avec des cordons de CRS partout. Les policiers, on les voit quasiment pas. Ils sont postés un peu en surplomb, ils prennent des photos, ils braquent un peu les gens, etc. Mais c'est pas du tout canalisé. Donc en fait, il y a 200 000, 300 000 personnes et ça peut partir à chaque instant, un peu partout. Et il y a largement le temps de faire ce que tu veux faire sans que, je sais pas, il y ait la pression immédiate quoi, de la répression. Par ailleurs, ce qu'on nous a raconté un peu aussi sur les modes d'organisation de tous ces événements dont elle parlait Cassandre là tout à l'heure, ça passe beaucoup par Telegram. Il y a énormément de fils, énormément d'informations en permanence qui circulent. Et en fait, il suffit que des gens proposent sur ce fil quelque chose, ils ont une idée. Et voilà, moi je voudrais faire ça. Ils le formulent souvent sous une forme euphémisée pour pas s'exposer trop. Ils disent « I dream about », »,« je rêve de », etc. Et s'il y a des gens qui suivent, il y a des gens qui suivent et ça se passe. Et puis s'il y a des gens qui ne suivent pas, je pense qu'il y a des tas et des tas d'actions qui n'ont pas lieu parce qu'en fait, elles ne sont pas suivies. Mais dès que quelqu'un a une bonne idée et que les gens s'y rallient, en fait, de fait, ça se passe sur ce mode-là de la communication Telegram, donc les réseaux instantanés.
Du coup, il n'y a pas d'assemblée ou il n'y a pas de moment physique où les gens se voient, ils discutent, il n'y a pas de...
Ben, si, quand même. Du coup, il y a un truc un peu plus particulier qui s'appelle les Lennon Walls. C'est en fait des endroits sur lesquels il y a des post-it. Enfin, par exemple, c'est un mur dans la rue, quoi, où les gens se mettent à accrocher des photos, des affiches et discutent par post-it. Et du coup, souvent aussi, se retrouvent là pour discuter du mouvement. Mais bon, il faut voir que le mouvement regroupant 1 million voire 2 millions de personnes, c'est sûr qu'il n'y a pas d'organe dans lequel tous ces gens-là se rencontrent et à un moment discutent de stratégie ou discutent du mouvement, quoi. Du coup, ça se fait plutôt par petits groupes. Enfin, en tout cas pour les gens qui se rencontrent sur Lennon Wall. Après, nous, on a assisté aussi à une assemblée, un rendez-vous, disons, de collégiens, lycéens, enfin de gens assez jeunes, quoi, qui s'étaient retrouvés sur une place et qui étaient par petits groupes de 10 qui discutaient aussi du mouvement avec un prof. Enfin, c'était des gens qui se connaissaient pas, quoi, des profs et des élèves qui se connaissaient pas spécialement, qui s'étaient retrouvés là et qui se retrouvaient ensemble à parler du mouvement, quoi. Et sinon, non, enfin, il n'y a pas vraiment d'autres... Sinon, c'est la virtualité, quoi. Enfin, c'est les réseaux sociaux, les groupes Telegram, et aussi un forum qui est en fait un ancien forum de jeux vidéo et qui est devenu la plateforme de discussion du mouvement sur lequel les gens peuvent plus s'inscrire parce qu'il y a déjà, je sais plus, 70 000 personnes, un truc comme ça. Du coup, c'est les gens qui sont déjà inscrits qui discutent. Et du coup, ils discutent, il y a plein de... Bon, c'est en cantonais, du coup, nous, on n'a pas... On peut pas vraiment dire quelles sont les rubriques et tout ça, mais il y a plein de rubriques et c'est des fils de discussion où donc les trucs qui sont le plus commentés, le plus liké ou le truc machin comme ça, ça remonte en haut et du coup les gens ils discutent de des trucs qui sont les plus vus. Enfin voilà, c'est un peu comme ça, c'est un peu l'algorithme du forum qui fait aussi qu'il y a des trucs qui sont plus discutés que d'autres. Voilà.
Vous avez ramené un son hein, de cette assemblée dont on parle.
Donc,
on n'a qu'à l'écouter un petit peu, ça nous fera un petit peu d'ambiance hongkongaise. Donc c'est pas le bon, c'est l'autre. Donc on va le retrouver, on va le passer. Voilà, alors du coup,
Donc là, on entend, ouais, on entend. En fait, donc, on dit que c'est pas organisé, mais quand même, dans, sur cette place-là, il y avait une estrade, un système son, des gens qui distribuaient des tracts. Enfin, bon, il y avait quand même une forme d'organisation, quoi. Et donc là, c'était des enfants, quoi. Enfin, des jeunes de, je sais pas, 12, 13, 14 ans qui passaient à la tribune, et donc on va pas vous traduire, je sais pas là ce qui était dit.
Les slogans qui étaient criés, en tous les cas, c'était les principaux slogans du mouvement. Bon, juste avant, il y a la.
Ouais, juste avant, il dit quelque chose au reste des gens, quoi. Mais après, oui, donc il y a des.
Ce qui est marrant aussi, c'est qu'il faut s'imaginer une personne qui a maximum 14 ans qui parle sur l'estrade. C'est assez impressionnant l'âge des gens qui étaient là à cette assemblée. Parce que le lycée là-bas, c'est de 13 à 18, donc c'est vraiment très jeune. Et les slogans qui sont beaucoup criés, qu'on entend partout, dans toutes les manifs, c'est « Liberate Hong Kong ». Enfin, je le dis en anglais, mais c'est ridicule parce qu'eux, ils le disent en cantonais, de temps en temps en anglais. Donc, « Libérer Hong Kong ». Revolution of our times, donc révolution de notre temps, ça c'en est un. Il y a souvent quelqu'un, une voix seule qui crie la première partie et le cœur qui répond la deuxième. Et sinon un autre qui est beaucoup crié, qu'on a entendu là aussi, c'est five demands, not one less, donc cinq demandes, pas une de moins.
Et donc ça fait référence à aux cinq demandes du mouvement qui ont donc émergé. Alors à la base, en gros, à un moment donné, au début du mouvement, il y a un gars qui est monté sur un toit avec des pancartes et qui est resté sur le toit pendant hyper longtemps. Et après, au bout d'un moment, il s'est fait déloger par la police et en fait, il est tombé du toit. Et du coup, ça a fait un peu. C'est un mort du mouvement, quoi. Enfin, ça a été aussi un peu une.
Il est tombé tout seul, hein, pour préciser. Enfin, je veux dire, ouais, il s'est pas fait pousser par la police.
Il a glissé du toit. Ça a été un peu un événement. Et donc, du coup, ce gars-là avait. En fait, c'est lui un peu l'initiateur des cinq demandes, même si ce qu'il avait écrit, c'était pas exactement ce qui ensuite est ressorti du mouvement, quoi. Et du coup, ces cinq demandes, après, elles ont émergé des réseaux sociaux, quoi. Et donc, elles sont. Donc la première, c'est la demande de retrait de la loi d'extradition. La demande de requalification des émeutes en manifestations, parce qu'en fait les premières manifestations, elles ont été qualifiées d'émeutes, et là-bas, si tu te fais arrêter pour émeute, tu risques 10 ans de prison, ce qui est pas la même chose pour manifestation. Et donc du coup voilà, c'était important pour eux de demander la requalification, en sachant que maintenant je crois que tout est qualifié d'émeute, quoi. Et parce qu'aussi au début les manifestations étaient déposées, autorisées, ce qui est plus le cas maintenant, quoi. Ensuite il y a la demande d'une enquête neutre sur les violences policières, donc c'est pas précisé par qui, enfin quelle neutralité, quoi, mais bon, il y a cette demande là le suffrage universel, et est-ce que j'ai dit les cinq?
Non, il en manque une.
L'amnistie pour tous les prisonniers.
Ah oui,
du mouvement,
l'amnistie pour tous les prisonniers. Voilà. Et donc du coup, le suffrage universel, donc c'était une des demandes principales du mouvement des parapluies, qui a absolument pas du tout été entendue, parce que donc là-bas, en fait, ils élisent pas leur président, quoi, enfin leur gouvernement. C'est le gouvernement chinois, donc le Parti communiste chinois, qui propose quelques candidats qui sont ensuite eux-mêmes élus par des grands électeurs. Et voilà, du coup, en fait, y a pas trop. Enfin, les citoyens hongkongais participent pas du tout à l'élection du gouvernement d'Hongkong, quoi.
On va faire une petite pause parce que justement, on va revenir là-dessus, qui est quand même le nœud de l'affaire, qui est le rapport avec la Chine continentale et Hong Kong, quoi.
I'm mind is off in outer space. I'm UFO. I'm super sort of human, ho.
Alors, on n'avait pas trouvé de musique hongkongaise. En tout cas, on était un peu... on a simplement passé quelque chose que les gens que vous aviez ramené de là-bas. En tout cas, quelqu'un vous avait dit, tiens, c'est sympa.
Les gens qu'on a rencontrés là-bas nous ont donné ça. Ils nous ont fait écouter un peu de la musique qu'ils écoutaient. Ouais. Et voilà, donc on a ramené un peu...
C'est vrai, parce qu'il n'y a pas de raison qu'à Hong Kong, on n'écoute que de la musique de Hong Kong. On écoute de la musique de partout, comme partout. Et on continue cette émission sur ce retour de Hong Kong.
Absolument. Moi, j'avais une petite question concernant la composition sociale du mouvement, les classes sociales qui composent le mouvement, et puis la place des femmes, par exemple. Voilà.
Il y a sans doute pas mal de choses à dire là-dessus, parce que c'est quand il y a 2 millions de personnes dans la rue, ça fait qu'il y a, quasiment une représentation assez exhaustive de toutes les classes sociales, etc. Mais il y a quand même des gens qui ont réussi à faire des enquêtes sociologiques qu'on a pu voir un peu. Et après, c'est assez étrange parce qu'ils sont allés interroger les gens dans la rue pendant les manifs. Ils ont fait ça sur les deux premiers mois, juin, juillet. Ils vont dans la rue, ils interrogent tous les gens et ils demandent le point de vue de la personne. C'est-à-dire, ils disent dans quelle classe sociale tu te situes, en donnant 3 possibilités, classe sociale supérieure, moyenne ou populaire. Et à cette question-là, il y a à peu près moitié-moitié entre populaire et moyenne, et 0,2% ou un chiffre assez faible de classes qui se disent supérieures. Maintenant, c'est quand même très ambigu cette question-là, parce que il y a des, comme elle l'a dit au début, des très riches qui ont tout intérêt à ce que la loi passe pas. C'est-à-dire, c'est une sorte de petit paradis fiscal, etc. Hong Kong, il y a des gens qui viennent se cacher là-bas, qui ont du gros sou. Donc, il y a aussi des très riches qui ont intérêt à ce qu'il y ait du mouvement, mais qui sont pas forcément dans la rue à ce moment-là pour répondre aux questions. Et ensuite, par rapport à la place des femmes, juste il y a eu plusieurs fois des manifestations appelées par les femmes du mouvement. Un peu comme on a vu à des moments dans les Gilets jaunes les dimanches, notamment à Toulouse, où il y avait des manifestations de femmes. Mais en relation à une dimension assez particulière, qui est qu'il y a eu beaucoup de faits d'agressions sexuelles, de viols, non pas dans le mouvement, mais par les flics, après les arrestations. Et que une fois les gens arrêtés, il y a eu plein d'histoires de violences sexuelles. Et donc, il y a eu même un hashtag Telegram, je crois que ça disait Protesters Too, quelque chose comme ça, pour dire le viol là est utilisé comme une arme de répression, quoi. Et donc, il y a eu une manifestation, c'était fin août, je crois, spécifiquement sur ce point-là. Et voilà, ça a été. Il y a une certaine visibilité de ça, disons.
Et sinon, peut-être par rapport à ça, pour l'image même que le mouvement se donne de lui-même, ils ont. Il y a une statue qui a été financée par des levées de fonds un peu sur Internet, là, un peu tout le monde pouvait donner, quoi, et qui était censée un peu être l'allégorie du mouvement. Et cette statue, c'est la statue d'une Black Bloc. Qui s'appelle Lady Liberty ou Lady Freedom Hong Kong, et qui est une meuf avec son masque à gaz, sa banane, etc. Qui met dans les, elle tourne, elle circule dans les facs, dans les lycées, etc. Du coup,
ils l'ont même montée jusqu'à la plus haute sur la plus haute montagne de Hong Kong pour faire des photos.
Il y en a 5, je crois. Il y a 5 statues. Enfin, c'est des statues en plates, quoi. Enfin, c'est des trucs grandeur nature, quoi. Et aussi concernant juste le fait que les très riches descendent pas dans la rue. Par contre, il y a effectivement des levées de fonds sur lesquelles, enfin, c'est des sommes hallucinantes qui sont récoltées en très peu de temps, quoi. Des fois, il y a une campagne pour un truc particulier. Je sais pas, ils récoltent. Je sais plus. Il y avait quelqu'un qui nous avait dit. Je me souviens plus pour quel motif était la récolte, mais ils avaient récolté 1 million en 2 jours, quoi, un truc comme ça. Du coup, on peut se douter aussi que éventuellement les plus riches participent de cette manière-là au mouvement, quoi.
Mais il y avait la première fortune hongkongaise, qui est une des premières fortunes mondiales, qui avait un peu demandé à Carrie Lam, donc la chef de l'exécutif, l'amnistie. Donc il a appuyé une des demandes du mouvement et il s'est fait un peu recadrer par Pékin à cause de ça. Et pour l'anecdote, nous on a entendu des choses assez marrantes sur des types qui se mettent à la sortie des lycées et qui achètent des masques à gaz, qui distribuent aux jeunes pour qu'ils puissent se protéger des gaz dans les cortèges. Ou avant que MTR, donc le réseau de transport, soit unanimement détesté, les gens qui étaient extrêmement civils mettaient des sous sur les tourniquets pour que puissent se payer, ceux qui ne pouvaient pas puissent se payer des billets. Donc il y avait ce type de un peu de pratique de solidarité interclasse qui se mettait en place, qui était pour nous assez assez inédite, quoi.
Bah, du coup, ça ramène un peu à cette histoire de rapport avec la Chine. C'est quoi une révolution quand dans ce cadre-là, quoi, dans cette espèce de truc interclassiste où il n'y a pas vraiment de demandes sociales, en tout cas, bon, qui sont pas exprimées dans les 5 points. Voilà, peut-être racontez-nous un peu ce rapport à la Chine continentale.
Bah ouais, c'est sûr que c'est un des très gros dossiers, il y a plein de choses à dire. D'ailleurs, il y a un certain... Enfin, moi j'ai lu au moins 2 articles très critiques de ce point de vue-là. Un qu'on trouve sur le site ACTA, un site parisien, et un autre sur lundi matin de Brossa qui explique que justement le mouvement est absolument pas un mouvement social et est focalisé contre la Chine, ou du moins s'est focalisé de plus en plus contre la Chine. Avec, c'est même plus un soupçon de xénophobie, c'est une xénophobie de plus en plus forte contre les Chinois. Ce qui, il l'a dit tout à l'heure, est un peu absurde, parce que il n'y a pas une diaspora chinoise, c'est tous des Chinois et des générations successives qui viennent de Chine, Hong Kong. Sauf que là, nous, par exemple, on était avec des gens qui, dans les restaurants chinois, lavaient tous les couverts qu'ils utilisaient, parce qu'il y avait l'idée qu'un restaurant chinois, c'est... en fait, c'est pas vraiment que c'est sale, mais c'est qu'il faut s'en démarquer d'une manière ou d'une autre. Et donc, il y a quelque chose de très fort autour de ça, et qui, évidemment... nous a beaucoup c'est peu dire que ça nous a gêné, c'est vraiment très bizarre, et d'autant plus que c'est accentué de plus en plus. Il y a plusieurs gens qui, parce qu'ils parlaient mandarin, se sont fait attaquer dans des petites escarmouches de rue comme ça, disons lynchés, quoi. Et donc il y a la cristallisation d'une identité hongkongaise de plus en plus forte, qui se définit évidemment, comme toutes les identités, contre d'autres et contre les Chinois en particulier.
C'est quoi la langue qu'on parle à Hong Kong ?
Le cantonais.
C'est le mandarin en Chine. Enfin, le cantonais, c'est pas spécifique à Hong Kong, c'est toute une région, quoi. Mais du coup, eux, ils ont trois langues officielles. Il y a l'anglais, le cantonais et le mandarin. Mais du coup, il y a aussi une bataille par rapport à ça, par rapport à la langue, quoi. Où eux veulent continuer de parler cantonais, quoi. Et quand il y a de plus en plus de lois qui, par exemple, à la fac, demandent qu'en fait les cours soient donnés en mandarin. Enfin voilà, il y a une vraie bataille sur ce truc-là, quoi.
Mais du coup, ouais, par rapport au rapport à la Chine, il y a des éléments un peu importants, je pense, à avoir en tête, notamment le fait que l'indépendance de Hong Kong, elle n'a pas vraiment lieu. Hong Kong est rétrocédé du Royaume-Uni à la Chine. Il n'y a pas de mouvement décolonial qui la précède, donc ça arrive longtemps après tous les mouvements de décolonisation qui ont lieu partout dans le monde. Et en plus de ça, c'est le fruit d'une négociation de gouvernement à gouvernement. Ce qui fait qu'il n'y a pas du tout eu la construction un peu d'une réflexion élaborée, critique sur les méthodes coloniales de l'administration, et du coup donc il y a cette dimension là et puis il y a l'autre dimension qui est que donc c'est rétrocédé en 97. Le mouvement dont on parle, c'est un mouvement très jeune, donc de personnes qui potentiellement sont nées après la rétrocession, et donc il y a aussi toute une mythologie du bon gouvernement britannique qui s'exprime dans les drapeaux du Royaume-Uni qui fleurissent partout dans les cortèges, et donc comme ça l'idée d'un âge d'or qui est un peu avec lequel on a du mal à être en phase quand on est un peu plus habitué, disons, aux approches décoloniales. Donc le sentiment anti-chinois, il est là aussi chez les jeunes et il s'enracine dans un contexte où il n'y a pas eu de mouvement décolonial à Hong Kong.
Tout le monde écoute Brasero et tout le monde écoute Brasero et tout le monde écoute Brasero et tout le monde écoute Brasero
et du coup, peut-être ça vaut le coup d'écouter l'hymne. Donc on a commencé à l'écouter tout à l'heure, mais c'était pas le moment. Et maintenant c'est le moment, mais choisi parfait pour écouter cet hymne. Encore une fois, on n'a pas exactement les paroles, mais en tout cas, ça se chante partout. Bon, c'était traduit a priori peut-être à Barcelone en catalan. Bon, ça fait un peu des enfants un peu partout. Mais du coup, qu'est-ce qui s'agglomère autour de ça? Et du coup, aussi moi, ma question, c'est est-ce que est en train de se produire aujourd'hui une identité hongkongaise qui est peut-être qui n'existait pas forcément au préalable, quoi?
Alors du coup juste un petit mot sur cet hymne parce que c'est quand même un peu marrant, il a été enregistré en scred, quoi, parce que l'orchestre avait très peur de se faire arrêter par la police, donc par un orchestre qui s'appelle Black Blorchestra. Et faut aller voir, quoi, il y a un clip sur YouTube, c'est très facile à trouver. Et effectivement cet hymne là il est repris de partout, en fait. Enfin, il y a pas une très grande non plus richesse de chansons ou de slogans politiques, disons. Donc on entend beaucoup les slogans là qu'on a dit tout à l'heure là à la fin de la vidéo. Donc ce qu'on entend, c'est 5 demandes pas moins. Et du coup nous quand on est arrivé, il venait un peu de sortir, et donc on voyait tous les gens qui étaient avec leur smartphone avec les paroles et qui commençaient à prendre la chanson. Et maintenant tout le monde connaît ce truc là par cœur, quoi. Et du coup, oui, c'est sûr qu'on peut vraiment dire qu'il y a une identité hongkongaise qui est en train de se construire. Après, que tous les Hongkongais participent à cette identité hongkongaise, ça c'est beaucoup moins sûr, quoi, parce que quand même le mouvement il fait pas l'unanimité, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même des batailles entre pro-mouvement et contre le mouvement, et que c'est aussi très difficile de faire entendre une voix qui est anti-mouvement, quoi. Même si en fait elle serait pas forcément pro-chinoise, quoi, mais en tout cas les gens qui se prononcent contre le mouvement en général sont vraiment attaqués, quoi. Et d'ailleurs, on l'a vu, il y a beaucoup de il y a eu des boycotts suite à des déclarations de d'entreprises qui se déclaraient peut-être qu'on y reviendra un peu, mais contre le mouvement, et du coup qui ont commencé à se faire soit boycotter, soit même parfois trasher par les manifestants, tout ça. Et donc du coup, cette identité hongkongaise, voilà, c'est plutôt l'identité d'un mouvement que l'identité d'une province en entière qui lutte pour son autonomie, quoi.
Après, les paroles, elles sont assez inspirées de la Marseillaise aussi, et c'est vraiment l'idée de, je sais pas, une sorte de martyrologie un peu du héroïque, comme ça, du combat pour la liberté, pour la révolution. C'est très à l'occidental, en quelque sorte. Et il y a quand même, nous, les amis anarchistes qu'on a rencontrés là-bas à Hong Kong, ils étaient vraiment très mal à l'aise avec ça. Ils disaient c'est n'importe quoi. Le mouvement essaye de s'inventer une identité hongkongaise, etc. Mais c'est à la rigueur ce qui est intéressant là-dedans, c'est le fait de se tenir ensemble. Parce qu'il y en a bien besoin dans ces moments où c'est dur pour eux, quoi. Il y a pas vraiment d'avenir, ils ont un mur répressif en face d'eux, etc. Mais ils y croyaient pas, quoi. Ils se sentent pas une espèce d'identité comme ça qu'ils voudraient défendre à tout prix. Donc ça fait pas l'unanimité du tout. Enfin, après, ça c'est évidemment des fractions qui sont très minoritaires. Cet hymne, il est quand même repris un peu partout.
Mais du coup, juste sur l'Occident, on a vu à un moment des tags qui mettent qui reprennent ce slogan de deux pays, quoi, un pays deux systèmes, pour deux pays un seul système, donc pour les États-Unis et pour la Chine. Est-ce que ça c'est juste quelqu'un qui a marqué ça et c'est très réduit, ou est-ce que il y a d'autres gens qui pensent ça?
Non, franchement, c'est quand même une position assez minoritaire, quoi.
Ouais.
Ouais, ouais. Oui, plutôt là, les gens, le délire, c'est de sortir dans la rue avec des drapeaux américains, quoi. Que de...
Mmh. Oui, et des drapeaux chinois avec les étoiles en forme de croix gammée et un slogan qui dit « China-Z ». Ça fait partie de toute l'iconographie anti-chinoise très très forte. Et donc, évidemment, il y a quelques positions là-bas qui essaient de dire « Bah non, il faut voir derrière, et America caca, China Z, deux pays, un seul système. » Et de, évidemment, voir derrière le système dans lequel tout ça s'intègre, qui est le système capitaliste. Et donc voilà, ça nous fait arriver sur la revendication ou le positionnement du mouvement sur le plan économique ou politique plus large, et qui est clairement pas un mouvement anticapitaliste. C'est pas le point de départ, et c'est pas nous, quand on y était en septembre, c'est pas du tout ça qui s'exprime. Et donc évidemment, nous, on s'imagine que des black blocs sont forcément anticapitalistes parce que ils se refusent à toutes sortes de représentations, mais il y a aussi une forme de radicalité dans les moyens qui est intéressante en soi, etc. Mais par exemple, on est dans les quartiers de luxe, les quartiers économiques centraux, etc. Et il y a aucun symbole du capitalisme qui est attaqué pour soi. Il y a des symboles de la Chine, la banque de Chine. Il n'y a pas les banques, il y a la banque de Chine. Il n'y a pas les hôtels de luxe, il y a les hôtels chinois. Oui, il n'y a pas non plus les magasins ou les grandes enseignes. Il y a les gens qui ont soutenu verbalement à un moment ou un autre la Chine, ou qui se sont démarqués du mouvement.
Alors, est-ce que les médias occidentaux ont raison? C'est des militants pro-démocratie, en fait?
Nous, on y est allé clairement pour essayer de faire mentir un peu les médias, parce que quand on entend un discours qui, d'un côté, met les grands méchants chinois, de l'autre, les gentils manifestants pro-démocratie, pro-européens, pro-nous, en fait, et bien évidemment, ça nous dérange. Et donc, on a envie d'aller chercher un peu la contradiction, d'aller chercher là où ça fuite, là où ça va pas, ça fonctionne pas comme ça. Évidemment, on l'a trouvé, d'autres voies, on en a trouvé, mais quand même relativement minoritaire. Et on pourrait dire c'est pro-démocratie. Après, je pense que plus que pro-démocratie, il y a quand même la volonté de se démarquer de la Chine. Et ça, c'est pas juste une histoire d'identité. On a beaucoup insisté là-dessus, là, parce que c'est un élément important, mais c'est aussi une histoire, elle a dit tout à l'heure, de contrôle social, et donc il y a des bons articles qui sont sortis là-dessus aussi, sur comment le mouvement invente une résistance face à des techniques de contrôle social qui, en fait, bientôt nous regarderont tous, et nous regardent déjà tous, la surveillance par les caméras, évidemment, la surveillance par les drones dans les manifestations. Et ça, par exemple, le fait de sortir les parapluies à Hong Kong est incroyablement répandu et efficace, parce que voilà, ça cache les manifestants. Ils ont aussi, ça a beaucoup tourné, alors qu'il y a quelques cas d'histoires comme ça, mais de sectionner les poteaux avec des caméras qui peuvent être mis à jour pour faire de la reconnaissance faciale plus tard. Et donc voilà, la Chine, c'est pas juste une vieille ruine totalitaire de la guerre froide, c'est aussi un laboratoire du contrôle social qui, évidemment, est vendu après dans le reste du monde. Donc il faut pas se leurrer là-dessus. Il lutte pas juste contre le vieil oppresseur, il lutte aussi contre la pointe des techniques de contrôle à l'échelle planétaire.
Et par ailleurs aussi sur cette admiration vouée à l'Occident qu'on pourrait voir dans les slogans donc pro-démocratique et aussi dans l'aide demandée aux États-Unis. Là c'est pareil, je pense que c'est un peu à nuancer. Par exemple l'aide aux États-Unis, les gens avec qui on en a parlé, donc qui n'étaient pas spécifiquement anarchistes mais qui disons plus représentaient le gros du mouvement quoi, ils nous disaient non mais en fait arrêtez de nous prendre pour des cons, c'est une stratégie qu'on met en place parce que nous à Hong Kong on a aucun, ils ont pas d'armée, ils ont aucun pouvoir quoi, et ils ont plus non plus vraiment la capacité de pouvoir je sais pas peser contre le gouvernement chinois quoi. Avant ils avaient quand même un poids économique à l'intérieur de la Chine parce qu'ils représentaient beaucoup au niveau des échanges commerciaux, c'était une porte d'entrée du capitalisme vers la Chine quoi. Aujourd'hui, il y a la ville mitoyenne de Hong Kong qui est Shenzhen qui s'est énormément développée, où il y a un port aussi, et donc du coup maintenant Hong Kong, je crois que ça représente plus que 3% du PIB chinois contre 20% il y a encore quelques années quoi. Et du coup en fait eux ils se leurrent pas non plus sur leur capacité à se défendre quoi, et c'est pour ça aussi qu'ils en appellent aux puissances occidentales qui du coup sont un peu les seuls à même de venir les aider contre la Chine. Et en fait ce truc là ça marche pas parce qu'en fait les puissances occidentales ont pas du tout envie de se mouiller même s'il y a effectivement une espèce d'ambiance guerre froide, en fait elle n'existe pas cette guerre froide parce que économiquement tous les pays du monde aujourd'hui sont liés à la Chine et du coup ils ont aucun intérêt à venir défendre ce mouvement là. Et d'ailleurs on l'a vu, il y a très très peu de gouvernements qui ont fait des déclarations publiques ou qui ont même qui ont soutenu disons s'il y a des trucs, des déclarations sur Twitter, il y a des trucs comme ça, mais il n'y a pas de truc officiel quoi qui est mis en place. Et du coup les États-Unis qui ont finalement passé cette espèce de loi pour les droits humains à Hong Kong, donc ils l'ont passé ce truc là et en fait ça change absolument rien quoi.
Ça va être un peu le mot de la fin. Je crois qu'il va falloir qu'on rende l'antenne parce qu'on nous la prête pour une heure et pas plus. Merci beaucoup. Il reste plein de choses à dire. Donc, en tout cas, on mettra sur la page pas mal de liens parce qu'il y a quand même pas mal d'articles aussi qui sont sortis, qui sont intéressants. Et on vous remercie pour ce retour et puis on verra bien si on en fait un autre.
C'était trop bien.
Merci de nous avoir invités. Salut.
Bonne soirée. Pas à sentir le cœur quand on voit la détenue. Les meufs,